Le journal avec vous, Frédéric Beniada. Bonsoir.
Bonsoir. Comme on pouvait s'y attendre, Donald Trump chahuté à Dayton, dans l'Ohio, sur les lieux des fusillades du week-end dernier. Accueil qui risque d'être encore un petit peu plus tendu au Texas. Dans le Var, le conducteur de la camionnette à l'origine de la mort du maire de Singh a été mis en examen pour homicide involontaire. C'est donc bien la thèse de l'accident qui est retenue. Nous entendrons dans ce journal les avocats de la famille de la victime et du conducteur. Dans l'Ardèche, les incendies sont ce soir maîtrisés, mais les pompiers restent mobilisés pour éviter toute reprise. Une enquête est ouverte pour déterminer leur origine. Nous reviendrons dans ce journal sur cette polémique autour d'un épisode de Plus belle la vie, accusé de banaliser la gestation pour autrui. Et puis au téléphone sonne ce soir, Yves Decamp, vous allez revenir sur la crise des migrants en Méditerranée et les moyens de leur porter secours.
Plusieurs centaines de noyés depuis le début de l'année. Les tentatives de traverser de la Méditerranée par les migrants diminuent, mais la mortalité augmente. Seules les ONG se mobilisent pour leur venir en aide. Alors que fait l'Europe? Vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000.
Yves Decamp, la météo pour demain, le retour de la pluie sur la façade ouest, nous dira Sébastien Léas.
France Inter.
Mais d'abord rêvons un peu la tête dans les étoiles avec cette découverte qui pourrait nous éclairer encore un peu plus sur la création et l'évolution de l'univers. Grâce au télescope ALMAR, de très vieilles galaxies jusqu'alors inconnues viennent d'être identifiées par une équipe internationale de chercheurs composée entre autres du CNRS et du CEA. 39 galaxies au total, leur étude est publiée ce soir dans la revue Nature, Célia Kigray.
Oui, ces galaxies très anciennes datent des deux premiers milliards d'années après le Big Bang, très tôt dans l'histoire de l'univers. Jusque-là, ces étoiles étaient totalement invisibles. Elles sont nées avant la Voie lactée. Il a donc fallu aller les chercher dans des cocons de poussière. Ce sont des galaxies noires, à distinguer des galaxies jeunes et visibles. David Elbaz est l'un des auteurs de cette publication. Il est astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique.
Ces 39 galaxies, ce sont des galaxies qui étaient totalement invisibles, en quelque sorte des galaxies noires, et qui sont nées très très tôt dans l'histoire de l'univers et qui sont aussi massives que la Voie lactée. Elles ont formé beaucoup de poussière interstellaire, et cette poussière a caché ces galaxies jusqu'à nous. C'est pour ça qu'on appelle ça des galaxies noires, c'est parce qu'il a fallu attendre d'avoir un ensemble d'une cinquantaine de télescopes combinés ensemble pour aller percer à jour ces galaxies qui étaient restées totalement invisibles jusqu'à présent.
Et en effet, cette découverte de 39 galaxies a été possible grâce au télescope ultra-puissant ALMA, basé au Chili. Ces galaxies noires sont 10 fois plus nombreuses que les galaxies visibles et elles forment jusqu'à 100 fois plus d'étoiles. C'est donc une phase majeure dans l'histoire de la lumière.
Le nombre 39 peut paraître un petit nombre, mais quand on le ramène à la toute petite surface qui a été observée, qui est une surface qui est l'équivalent, disons, de la pointe d'un stylo porté à bout de bras, un peu plus gros que ça, eh bien, là-dedans, on a trouvé toutes ces galaxies-là. Donc ça veut dire que, rapporté à l'univers dans son ensemble, ces galaxies sont suffisamment nombreuses pour expliquer la naissance de toutes les galaxies massives qu'on connaît autour de nous.
Et cette découverte ouvre donc de nouvelles perspectives pour comprendre la naissance des étoiles. À partir de 2021, le successeur du télescope Hubble, qui sera lancé par la NASA et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, pourra rapporter de nouvelles images qui aideront peut-être à résoudre un peu plus ce grand mystère des premières galaxies.
Célia Kigray. Les obsèques du maire de Singh dans le Var auront lieu vendredi. L'élu a trouvé la mort hier, renversé par une camionnette dont les occupants voulaient décharger illégalement des gravats. Le conducteur de la camionnette, un maçon de 23 ans, a été mis en examen pour homicide involontaire et remise en liberté sous contrôle judiciaire. La thèse de l'accident est donc clairement privilégiée, comme l'explique l'avocat du conducteur de la camionnette, maître Julien Gauthier.
Le véhicule utilitaire impliqué est un véhicule qui ne dispose pas de fenêtre arrière. Et si une personne est debout à l'arrière du véhicule, on ne peut pas la voir. Quand même, dans ce dossier, il faut quand même réaliser que s'il y avait le moindre doute sur le caractère accidentel ou non de ce dossier, le parquet n'aurait pas choisi la qualification d'homicide involontaire. L'ensemble des éléments du dossier aujourd'hui établissent qu'il s'agit d'un accident.
Une thèse qui ne tient pas, en revanche, pour l'avocat de la famille du maire de Singh, maître Jean-Claude Gudicelli.
En ce qui concerne le conducteur, monsieur le maire lui avait donné injonction de ne pas bouger, d'attendre que la police municipale vienne le verbaliser. Monsieur le maire avait d'ailleurs positionné son véhicule à l'avant. pour bloquer donc ce véhicule utilitaire. Monsieur le maire s'était mis derrière pour bloquer le camion puisqu'il avait au téléphone la police municipale qui devait arriver. Là, j'imagine que sur un coup de tête, sur un coup de sang, sur un coup de folie, le conducteur, à ce moment-là, ça se passe en une seconde. Hein. C'est brutal, c'est soudain, c'est intempestif. Il veut pas se faire verbaliser, ça veut dire qu'il veut pas se faire prendre. À ce moment-là, le conducteur est parfaitement conscient que en reculant, en effectuant nerveusement cette marche arrière, ben, il va bien évidemment non pas mettre en danger la vie d'autrui, mais d'attenter à la vie de monsieur le maire.
L'avocat de la famille du maire de Signes, en attendant les obsèques de l'élu vendredi, un hommage lui sera rendu demain après-midi dans sa commune. Plus tu livres, moins tu es payé. La colère des livreurs de Deliveroo en grève aujourd'hui contre les nouvelles conditions de rémunération pratiquées par la plateforme. Une nouvelle grille tarifaire qui privilégiait les courses les plus longues. Fabien Cazot.
Outre le prix des courses, la colère des livreurs de repas à domicile porte sur les conditions sociales dans lesquelles ils exercent leur activité. Le sujet avait été abordé dans les discussions sur la loi mobilité il y a quelques mois, débat aussitôt refermé à cause du lobbying des plateformes qui les emploient, accusent les livreurs en grève. Pourtant, au sein même de la majorité, certains députés poussent pour la création d'un nouveau statut pour ces travailleurs d'un nouveau genre, comme Aurélien Taché, qui siège à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
Pendant très longtemps, on a eu des travailleurs indépendants qui étaient en capacité de se protéger eux-mêmes, finalement, par les revenus, le patrimoine qu'ils généraient. Je pense bien sûr à la profession classique du commerce, de l'artisanat ou aux professions libérales. Mais là, avec ces nouveaux métiers, ces nouveaux statuts de la micro-entreprise, on a souvent des gens qui gagnent des revenus qui sont assez faibles, en tout cas pas suffisamment importants pour pouvoir se protéger eux-mêmes, qui veulent garder cette autonomie. Et tout le monde y trouve son compte. Ça fait des débouchés d'emploi, ça donne une liberté à ces travailleurs. Mais il faut aussi qu'on prévoie des droits sociaux qui soient adaptés.
Il y a deux chantiers en particulier sur lesquels le gouvernement se sait très attendu. Des règles d'indemnisation chômage spécifiques pour les salariés au statut d'indépendant et de micro-entrepreneur, ainsi que de nouvelles garanties en vue de leur future retraite.
Une manifestation est prévue ce soir à Paris, place de la République, et les livreurs appellent leurs clients à boycotter la plateforme de livraison. Une jeune radicalisée, condamnée cet après-midi à Paris à 7 ans de prison, assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire, jugement du tribunal correctionnel de Paris. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 21 ans, envisageait de commettre un attentat en France au nom de l'État islamique. Elle avait été interpellée il y a 3 ans à Clermont-Ferrand, après avoir manifesté ses intentions sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que le feuilleton de France 3, Plus belle la vie, suscite un débat de société. Ces scénarios collent souvent avec l'actualité. Souvenez-vous, si vous êtes adepte de cette série, il y avait eu le mariage pour tous, puis le cannabis. Cette fois, c'est l'épisode 3847, diffusé le 23 juillet dernier, qui provoque la polémique. Il y parle de GPA, la gestation pour autrui. Un parti pris très grave pour des associations féministes qui ont décidé de saisir le CSA. Clément Paulin.
L'une des héroïnes de la série ne peut pas avoir d'enfant. Elle décide de faire appel à une mère porteuse britannique. C'est cet épisode qui a fait réagir les collectifs féministes. Marie-Hélène Franjou est présidente de l'Amicale du Nid. Elle lutte contre l'exploitation du corps des femmes.
Nous sommes très étonnés qu'à la télévision, effectivement, il y ait une série qui fasse presque l'apologie de la maternité de substitution. Vraiment, c'est un trafic de femmes, un trafic d'enfants. C'est strictement interdit en France comme ça l'est dans d'autres pays européens.
Épisode d'autant plus dommageable que la série est encore suivie par plus de 4 millions de spectateurs chaque jour. Pour Marie-Hélène Franjou, il y a une responsabilité de France 3 et des producteurs dans la diffusion de la pratique. Les collectifs attendent maintenant une réaction du CSA.
Nous demandons qu'il y ait une interdiction de ces épisodes, une prise de position et que, en conséquence, qu'il y ait d'autres épisodes de telle façon qu'on sache que cette pratique est interdite et pourquoi elle est interdite.
Les producteurs de Plus belle la vie défendent leur droit de s'emparer des questions de société. La série avait déjà fait parler d'elle à l'époque du mariage pour tous. Ils assurent cette fois que l'histoire se déroule sur plusieurs semaines avec différents points de vue. Les scénaristes, eux, ont cloué la séquence en racontant que cette GPA était une escroquerie.
3 personnes, dont 2 mineurs, interpellées dans une affaire de cigarettes trafiquées dans la Loire. 6 jeunes ont été victimes de cette arnaque. Ils ont acheté dans la rue des cigarettes qui visiblement contenaient une substance bien plus puissante que du cannabis. Les victimes perdaient alors connaissance et étaient dépouillées de leur téléphone portable.
Le journal de 19h sur France Inter.
Il n'était pas le bienvenu, très critiqué pour ses propos jugés haineux. Donald Trump s'est rendu aujourd'hui dans l'Ohio à Dayton avant une visite au Texas sur les lieux des fusillades du week-end dernier. Et comme on pouvait s'y attendre, l'accueil n'a pas été des plus chaleureux, Grégory Phillips.
Alors écoutez, le président a été accueilli de manière assez protocolaire par le gouverneur républicain de l'Ohio et la maire démocrate de Dayton. Puis Donald Trump et la première dame Melania ont passé une cinquantaine de minutes environ à l'hôpital de la ville pour rencontrer les équipes médicales, les services d'urgence qui sont intervenus samedi soir et des personnes blessées lors de cette fusillade. Le convoi présidentiel est entré par l'arrière de l'hôpital et n'a donc pas vu les quelques dizaines, peut-être une centaine de manifestants réunis devant l'établissement. Sur leur pancarte, il est écrit « Do something », faites quelque chose. Et c'est aussi le message que la maire de Dayton, Nan Whaley, veut délivrer au président. Elle l'a dit tout à l'heure sur CBS.
Au lieu de juste des mots, je veux que le président fasse quelque chose afin que ces actes de violence insensés arrêtent de se produire dans notre pays. On connaît le président, il aime dire qu'il agit, mais concernant le problème des armes, rien n'a été fait, juste de belles paroles.
Donald Trump, qui tout à l'heure, avant de quitter Washington, a assuré qu'il était prêt à travailler avec le Congrès sur la question du contrôle des antécédents pour les acquéreurs d'armes à feu. Or, vous savez qu'un texte sur le sujet a été adopté en février dernier par la Chambre des représentants dominée par les démocrates, mais qu'à l'heure qu'il est, la loi n'a pas passé la barre du Sénat dominée par les républicains.
Grégory Phillips en direct de Dayton. À l'étranger toujours, ce bain de sang ce matin à Kaboul. Un attentat à la voiture piégée devant un commissariat a fait au moins 14 morts et plus de 150 blessés. Attentat revendiqué par les talibans qui avaient prévenu qu'ils feraient tout pour perturber les élections présidentielles prévues à la fin du mois de septembre. Plus de 1500 personnes ont été tuées ou blessées dans des attentats depuis le début du mois de juillet. Bruit de bottes et intimidation, des milliers de policiers chinois ont participé aujourd'hui à un exercice anti-émeute aux portes de Hong Kong, une opération perçue comme un nouvel avertissement de Pékin aux manifestants pro-démocratie qui défient depuis maintenant 2 mois le régime communiste de l'ancienne colonie britannique. En Tunisie, c'est une première dans l'histoire du parti, les islamistes d'Ennahda présenteront un candidat à la présidentielle en septembre prochain. Il s'agit d'Abdel Fattah Mourou, chef du Parlement par intérim. Eskilstuna, le nom de cette petite ville située à l'ouest de Stockholm, ne vous dit sans doute pas grand-chose. Et pourtant, depuis quelques jours, elle fait beaucoup parler d'elle puisque cette commune vient d'instaurer un permis de mendier. Officiellement, pour le maire de la ville, il s'agit d'identifier les personnes en détresse, sauf que le permis est payant. À Stockholm, la correspondance de Frédéric Faux.
Ces deux femmes qui tendent la main devant un supermarché d'Eskilstuna ont déjà rodé leur discours en cas d'un éventuel contrôle.
On ne parle que roumain, Bucarest.
Nos papiers, on les a, le permis pour demander de l'argent aussi. Oui, oui.
Vous voulez nos myrtilles ? C'est 3 euros.
Elles affirment avoir leur permis de mendier, bien qu'aucun n'ait encore été distribué. Et elles vendent quelques baies cueillies dans la forêt pour montrer qu'elles ont une autre activité. Ce permis ne concernerait que 30 à 50 personnes, essentiellement des femmes roumaines exploitées, qui mendient pour leur chef. Pour ceux qui le contestent, il s'agit d'une atteinte à la liberté et à la générosité de chacun. Pour le maire social-démocrate Jimmy Janssen, l'enjeu est d'abord d'identifier les gens en détresse et de lancer un débat.
Les gens qui mendient n'ont pas le droit à nos aides sociales. Ils sont bloqués dans notre système. Ils restent ici et demandent de l'argent. Si vous voulez vaincre cette pauvreté, vous devez faire des choses qui mettent ces gens dans la bonne direction. C'est pourquoi nous faisons ça.
Depuis décembre dernier, à une décision de la Cour suprême administrative, plusieurs communes suédoises ont fait un choix encore plus radical, celui d'interdire la mendicité dans leurs rues. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
Plus spectaculaire que dangereux, à la condition évidemment de rester à distance. Le Piton de la Fournaise ne cesse depuis le début de l'année d'enchaîner les éruptions plus ou moins violentes. Il faut savoir que c'est l'un des volcans les plus actifs au monde. Toukniri Lanto.
Cette fois, le Piton de la Fournaise s'est calmé au bout de 16 heures, mais la vigilance reste de mise. Une habitude pour la population, un risque pour les touristes. Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire du Piton de la Fournaise.
Pour les randonneurs qui se rendent sur site, il y a un petit panneau d'affichage à l'entrée du volcan qui explique la situation et qui explique donc aux randonneurs de bien rester sur les sentiers, puisque une éruption est probable à moyenne échéance. En phase de vigilance, il y a certaines contraintes. C'est que le randonneur ou le visiteur qui se rend sur le volcan doit rester sur les chemins balisés afin donc de pouvoir être évacué rapidement en cas donc d'imminence d'une éruption.
Des éruptions, il y en a en moyenne 2 à 4 par an depuis 2014. Pas de danger, mais l'observatoire surveille quand même le volcan de près.
Depuis la fin de l'éruption le 30 juillet dernier, on observe que le volcan a repris une phase de gonflement. Ce gonflement est un des précurseurs pré-éruptifs. On s'attend effectivement à une quatrième éruption pour 2019. Donc on est en veille, bien sûr, comme tout restant de l'année, mais une veille un peu plus renforcée.
La dernière menace sur les habitants, c'était en 1977. Une coulée de lave avait atteint une ville du sud-est de l'île, ravageant une trentaine de bâtiments. Les éruptions de ces dernières années n'ont en revanche pas causé de dommages.
Et quel temps pour demain ? Ce sera un retour au calme, Sébastien Léas.
Oui, quelques averses transitent encore en ce moment entre le nord Auvergne et l'Alsace. Mais l'amélioration amorcée cet après-midi sur les régions de l'Ouest va se généraliser en soirée avec l'évacuation des dernières averses. Demain, le pourtour méditerranéen et les plaines du sud-ouest profiteront du soleil dès le matin. Entre la Côte d'Azur et la Corse, la matinée sera parfois assez nuageuse, mais les éclaircies seront plus larges l'après-midi. Les nuages seront aussi nombreux en début de journée entre le Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes et sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Mais le ciel va aussi devenir plus bleu l'après-midi. En revanche, sur un large quart nord-ouest, les éclaircies resteront plus timides, même si le soleil arrivera à faire quelques belles apparitions. La journée s'annonce encore plus perturbée sur la Bretagne et la Basse-Normandie, avec un ciel chargé et des passages d'averses. Les averses seront nombreuses en matinée, mais plus localisées l'après-midi.
Et les températures vont fortement augmenter dans le sud.
Oui, de l'air très chaud remontant d'Espagne va s'engouffrer sur le pays demain et vendredi. On attend donc un pic de chaleur, bref, mais assez marqué. Dès demain, les maximales vont s'envoler sur la moitié sud, 31 degrés à Aurillac, Lyon, Bayonne et Sartène, 34 degrés pour Bordeaux et pour Marseille et 35 degrés à Nîmes. La hausse sera moins forte sur la moitié nord, mais les températures sont quand même assez chaudes pour la saison. 26 degrés à Caen, 27 degrés à Mulhouse et à Rennes et 28 degrés pour Paris, Reims et au Mans. Et ce pic de chaleur concernera aussi le nord-est du pays vendredi, alors que sur le nord-ouest, les températures resteront plus tempérées.
Merci Sébastien Léas.